Les lobbies ont une bien mauvaise réputation. C'est à cause d'un lobby que Nicolas Hulot a démissionné. Ça a été la goutte de trop, c'est ce qu'il nous a dit hier matin sur France Inter. Réputation méritée ou pas, on voit cela avec vous. Aurore Gorius, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au site d'Information Les Jours, auteur de la série Lobby, le pouvoir des couloirs. Mmh. Est-ce qu'il y a plus de lobbies depuis qu'Emmanuel Macron est à l'Élysée? Est-ce qu'ils sont plus influents?
En tout cas, il y a un soupçon très fort sur la majorité En Marche, c'est-à-dire que déjà, il y a deux choses. D'abord, il y a l'élection d'Emmanuel Macron elle-même. Emmanuel Macron, pour se faire élire pendant sa campagne, a levé 13 millions d'euros très rapidement en quelques mois. Et on n'a pas, en France, la loi n'oblige pas ceux qui financent les campagnes électorales à se rendre à être public. On n'a pas les noms de ces gens-là.
Emmanuel Macron a refusé. On lui a demandé. Certains candidats lui ont demandé.
Il a toujours refusé de publier cette liste et c'est pas obligatoire. Même si les dons sont plafonnés, en tout cas la liste n'est pas publique. Et puis il y a une autre dimension, c'est que Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en voulant promouvoir la société civile. Alors, on a des ministres qui viennent de la société civile, on a la ministre du Travail qui a été DRH de Danone, on a le Premier ministre lui-même qui a été lobbyiste chez Areva entre 2007 et 2010. Donc, on a comme ça des ministres qui viennent du privé, on a aussi des conseillers dans les cabinets qui viennent du privé, qui sont passés par le privé. La conseillère agriculture d'Emmanuel Macron est passée par le lobby du vin. Il y a plusieurs exemples comme ça. Et du coup, il y a effectivement une assez grande porosité entre la sphère publique et la sphère privée sous Emmanuel Macron, et la majorité En Marche a même valorisé ça. Pour eux, la société civile, c'est important, c'est de l'expérience, etc. Mais du coup, ça veut dire aussi que c'est une porte d'entrée pour les lobbies, parce que quelqu'un qui a été cadre ou qui a été responsable ou dirigeant d'une entreprise ou dans un grand groupe pendant plusieurs années peut être amené à parfois avoir défendre certains intérêts privés dans la sphère publique, ou parfois même avoir une vision des choses qui correspond plutôt à la vision de l'entreprise dont il vient, plutôt que à l'intérêt général.
Et comment ils travaillent ces lobbies? Ils vont à l'Assemblée, ils vont à l'Élysée, dans les ministères, comment ils font?
Partout ils peuvent passer, c'est le principe, mais en tout cas ils sont actifs auprès de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que ils vont par exemple envoyer des amendements clés en main. On l'a vu lors de la loi alimentation, il y a un amendement qui s'est retrouvé déposé en 20 exemplaires différents avec la même faute d'orthographe. Ça veut dire qu'en fait, c'était évidemment les députés ne l'ont pas relu et c'était clé en main par un lobby. C'est souvent comme ça qu'on repère les amendements clé en main des lobbies. C'est des rendez-vous dans les cafés autour de l'Assemblée, au Bourbon, chez Françoise, voilà. C'est aussi évidemment une façon d'approcher pas seulement les députés, mais aussi l'exécutif, le président de la République, le Premier ministre, les ministres, en essayant d'avoir des rendez-vous avec le cabinet. Et c'est pour ça que les conseillers jouent un rôle important, parce que évidemment quand on peut avoir un rendez-vous avec un conseiller au cabinet pour un lobbyiste, c'est déjà une grande partie du chemin qui est fait.
Est-ce qu'il y a des traces de tout cela, de toutes ces rencontres?
Alors c'est un des grands problèmes, c'est-à-dire que à l'Assemblée, un registre a été instauré. Depuis 2016, la loi Sapin a instauré un registre des lobbies. Les lobbies doivent s'y inscrire. Premier problème, le problème de ce registre, c'est que tout ce qui est déclaré dessus, alors les lobbies doivent déclarer leurs dépenses en termes de lobbying et leurs clients. Mais c'est du déclaratif, c'est dur à vérifier. Et puis les lobbies rechignent un peu à s'y inscrire. Il y a 1600 maintenant lobbies inscrits et les évaluations montrent qu'il y a 4 ou 5 fois plus de lobbies qui sont
inscrits. Et puis ça marche que pour les rendez-vous à l'Assemblée, si c'est dans la brasserie du coin, il n'y a aucune trace.
Exactement, ça marche uniquement pour les lobbies qui vont rencontrer des députés dans l'enceinte de l'hémicycle. Partout ailleurs, évidemment, il n'y a pas de trace. Et il n'y a pas non plus de traces des rencontres, à part les agendas parfois, mais sinon il n'y a pas de traces des rencontres entre les lobbies et puis les ministres ou les conseillers.
Par exemple. Oui, ça c'est que pour le registre n'est que pour l'Assemblée.
Que pour l'Assemblée nationale, que pour les députés.
Quelles sont leurs méthodes? Comment ils font pour essayer de convaincre les députés ou les personnes à responsabilité?
Ça part
à des petits cadeaux?
Parfois, alors ça c'est vraiment le lobbying vieille école, un peu à la
le
papa.
Lobbying à papa, oui.
Voilà, c'est ça. C'est les vieilles stratégies.
Et c'est toujours d'actualité.
Et c'est toujours d'actualité, ouais. C'est-à-dire, alors c'est... Quand ça sort, c'est de moins en moins accepté et toléré. C'est de plus en plus.
C'est quoi? C'est une place de concert, une bouteille de vin.
Voilà,
des choses comme
ça. Des places dans des compétitions sportives, aux premières loges. C'est ce genre de choses. C'est des bons repas payés très cher. C'est des invitations parfois dans des voyages aussi. Ça arrive. Donc ça, c'est le vieux lobbying qui passe de moins en moins bien. Il y a un lobbying de plus en plus professionnel qui essaye de s'en tenir à de l'argumentaire, mais il y a encore des tentatives d'influence. Par exemple. Il y il y a une tactique classique des lobbies, c'est quand un député a dans sa circonscription une entreprise avec, qui crée de l'emploi, qui correspond et qui emploie un certain nombre de personnes dans une circonscription, c'est un peu le chantage à l'emploi, c'est-à-dire on va dire bon ben défendez nos positions parce que nous on embauche tant et tant de vos électeurs, donc soyez sympa avec nous. Il y a aussi parfois ce chantage-là qui existe.
Est-ce que finalement c'est pas normal qu'un secteur d'activité défende son point de vue, puisqu'un lobby défend un point de vue? Est-ce que c'est pas normal qu'il essaye?
Alors oui, c'est légitime qu'il essaye. Après, il y a, et c'est légitime même, on peut même considérer que dans une démocratie qui fonctionne bien, il faut que tous les points de vue soient entendus. Après, il faut que ce soit transparent. Il faut qu'on sache à qui on parle. Et si on reprend l'exemple récent, par exemple, de Nicolas Hulot, qui a dénoncé les activités de Thierry Coste, le lobbyiste de la chasse, enfin, qui en tout cas a dit que c'était un peu le déclic qui l'avait conduit à démissionner. Thierry Coste, par exemple, est le lobbyiste de la Fédération nationale des chasseurs. Et en même temps, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, il dit qu'il est le conseiller officieux pour l'agriculture et pour la chasse et pour la ruralité d'Emmanuel Macron. Comment peut-on défendre les intérêts d'une fédération professionnelle et en même temps dire qu'on conseille, de façon officieuse en plus, donc c'est vraiment pas transparent, le président de la République, mélange des genres total. Donc à partir du moment où c'est flou, où on ne sait pas à qui on parle, évidemment, tous les soupçons sont possibles et c'est là aussi que se nichent toutes les collusions possibles et toutes les tentatives d'influence les plus néfastes et les plus exagérées.
Est-ce qu'il y a des bons et des mauvais lobbies, puisque finalement une ONG c'est un lobby aussi, ou Nicolas Hulot lui-même, avant il a été lobbyiste avec sa fondation, avec sa société de conseil.
On peut dire ça, mais il faut, alors c'est aussi une tactique des lobbies les plus riches de dire en fait tout le monde est un lobby. Il y a lobby et lobby. Il y a des lobbies très riches qui ont des moyens d'influence très forts. Aujourd'hui toutes les grandes entreprises se sont dotées de responsables d'affaires publiques, de responsables de services entiers qui sont là pour faire du lobbying. Elles font aussi appel à des agences extérieures qui sont des professionnels du lobbying. Tout ça coûte très cher et ça n'a rien à voir. Par exemple, le lobby des pesticides, par exemple, du lobby phytopharmaceutique, a des moyens qui sont sans commune mesure avec les ONG de l'environnement. On peut mettre tout ça dans la même case. On peut dire c'est tout le monde, c'est des lobbies. Mais le lobbying, c'est quand même beaucoup une affaire d'argent. Mm-hmm. Plus on a d'argent, plus on peut influencer, plus on a des moyens de pression. Et les lobbies les plus riches, on peut prendre l'exemple du tabac, on peut prendre l'exemple du lobby pharmaceutique. C'est ceux qui ont le plus d'influence. Et c'est sans commune mesure avec les ONG qui ont souvent, ou avec des petites associations qui ont souvent très peu de moyens pour essayer d'approcher les députés, très peu de personnel et très peu de moyens financiers.
Pourquoi la France a mis autant de temps à commencer à encadrer cette activité? Vous le disiez, c'est date de la loi Sapin, c'est donc décembre 2016, vieux. Oui. Il y a d'autres pays, le Parlement européen aussi, où c'est fait depuis longtemps et bien plus fort, de manière bien plus importante. Pourquoi ça coince en France?
Je pense qu'en France, il y a eu pendant longtemps une certaine tolérance vis-à-vis une certaine opacité sur le fonctionnement du pouvoir et qu'on a du mal à en sortir. On commence à en sortir. La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique a été créée après l'affaire Cahuzac en 2014. On commence seulement à sortir de ça. Effectivement, la France a beaucoup de retard sur le sujet. Comme on disait au tout début, on ne sait pas qui finance la campagne électorale. Et on a, par exemple, on pourrait aussi publier beaucoup plus clairement les contributions des lobbies sur les projets de loi. On pourrait publier la liste des lobbyistes rencontrés par les ministres ou par les cabinets des ministres.
Mais ça
et tout
pas.
Ça, on le fait pas. Et il y a encore beaucoup de progrès à faire. Donc
vous avez encore beaucoup de travail à réaliser, beaucoup d'enquêtes. Merci beaucoup, Aurore Gorius, journaliste au site d'information Les Jours. Et je conseille aux auditeurs d'aller lire votre série Lobby, le pouvoir des couloirs. C'est truffé d'exemples précis, concrets. C'est vraiment passionnant. Merci beaucoup. Vous étiez l'invité du 5-7 de France Inter.